dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
L'évolution dont on parle, c'était des évolutions lentes. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ça va beaucoup plus vite. Mais pour imaginer, les Alpes, par exemple, c'est 60 millions d'années. Donc on est vraiment bien avant. J'avais toujours en tête des études où on disait que le saxonien, donc cette période-là, était abiotique. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun fossile, on ne trouvait rien. Et en fait, il y en a plein. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant, à la Pangée, la France se trouvait en fait à l'est de cette Pangée, face à un immense océan qui s'appelle la Patalassa.
C'est fabuleux, vous nous faites voyager dans le temps.
Ah ben,
ça, c'était avant les dinosaures.
C'est bien avant les dinosaures, oui. On est à près, donc toujours à moins de 180 millions d'années. Les dinosaures, c'est ce qu'on connaît, c'est au-delà de 200 à peu près millions d'années.
Il existe un Aveyron, niché dans le hameau de Montaigu, à proximité du fameux château qui domine le Rougier de Camarès, un lieu unique en son genre. Un musée qui invite à voyager dans le temps d'avant, celui où tous les continents étaient réunis pour former la Pangée.
C'est Claudine Larger qui a tenu à ce que ce lieu existe. Soutenue par l'association des Amis du Château de Montaigu, elle a mené son projet à terme.
Et là, au rez-de-chaussée de l'ancienne école du hameau, c'est avec passion et érudition que Claudine nous fait plonger dans la construction des rougiers, ces fameuses terres rouges qui interpellent, et à se questionner sur les crises majeures qui ont bouleversé la planète.
Elle nous donne à découvrir l'histoire de cette terre à partir d'une riche collection de fossiles trouvés localement. Et nous voilà transportés à l'ère du Permien, entre moins de 180 et moins de 150 millions d'années.
Dissonance vous invite à écouter Claudine Larger raconter cette époque où, alors que régnait un climat tropical, avec alternance de saisons sèches et de périodes humides, elle nous transporte à l'abri d'une végétation de fougères arborescentes et de prêles géantes, nous faisant côtoyer un peuple d'amphibiens dont certains mesuraient plus de 1,80 m.
Une heure de temps suspendue, où la pédagogie innovante de cette guide d'exception sait rendre passionnant ce que parfois nous avons eu tant de mal à comprendre à l'école.
Voyage en Pangée avec Claudine Larger sur Dissonance. Donc Claudine Larger, nous sommes ici dans la maison de la Pangée ou la maison du voyage de la Pangée. Première question, c'est quoi la Pangée?
Alors la Pangée, c'est un ensemble de continents qui étaient réunis et qui ont existé donc à l'époque où se sont formées en fait les roches de la région. Quand on rentre dans l'exposition donc Voyage en Pangée, on rencontre donc des roches que l'on peut trouver localement ou pas très loin en fait du château de Montaigu. Et ces roches se sont formées dans un contexte très particulier, très différent de l'époque actuelle. À cette époque-là, tous les continents étaient réunis en un continent unique qu'on appelle la Pangée. Et si on recherche sur cette Pangée la position de la France, on s'aperçoit qu'elle était au début de l'histoire locale de la région, qui s'est passée vers moins de 280 millions d'années, elle est beaucoup plus proche de l'équateur qu'à l'époque actuelle. Elle se trouve en fait dans la zone tropicale humide. Et si on regarde l'évolution de cette Pangée au cours du temps, on s'aperçoit qu'en réalité, notre France donc, remonte en latitude Et après, on observe un éclatement de la Pangée, un morcellement de la Pangée. Et la France va donc finalement remonter pour se retrouver à la latitude 45, qui est à peu près donc la latitude de notre région.
Dans cette Pangée, tout est collé. L'Afrique est collée à l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord.
Pratiquement tous les continents là sont réunis. On a même l'Inde là, qui est au niveau de l'hémisphère sud, est collée à l'Afrique. On a donc l'Australie aussi. L'ensemble donc est étroitement collé. C'est à cette époque-là, en fait, au début, donc vers moins de 280 millions d'années, il y avait des glaciers, donc, enfin des calottes glaciaires au nord et au sud, ce qui fait qu'au niveau de la disposition, latitude des climats, on avait à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Et donc ça commence en milieu tropical, tropical humide. Après, ça va changer, parce que le climat va changer parce qu'on monte en latitude, mais il y a aussi plein de phénomènes qui se rajoutent et qui expliquent une évolution du climat assez importante.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la Pangée ?
Ben, c'est-à-dire que j'étais enseignante, donc en SVT, et forcément dans mes études, c'est plutôt dans mon enseignement que j'ai entendu parler de la Pangée, parce que quand j'ai fait mes études, tout ça, on n'y croyait pas trop encore. C'était quelque chose, tout ce qu'on appelle la tectonique des plaques, tous ces mouvements-là, dans mes études, on n'en parlait pas.
Et maintenant, c'est...
C'est acquis. Et il y a même un certain nombre d'arguments que l'on peut voir dans une vitrine. Voilà. Si on peut regarder la disposition des végétaux, donc à l'époque du début, vers moins 280 millions d'années, et on s'aperçoit que dans les parties nord de la Pangée, on avait des conifères. Et dans une partie sud qui se trouve donc Amérique du Sud, Afrique du Sud, Inde même et Australie, on retrouve des végétaux tout à fait différents qui sont donc des sortes de fougères fossiles qu'on appelait les glossopteris. Et on s'aperçoit qu'ils étaient donc relativement proches les uns des autres. Et en particulier, on les retrouve dans l'Inde et l'Australie. Or, on sait maintenant qu'en Australie, par exemple, on a des végétaux différents du reste des continents, ce qui montre qu'à l'époque, si on avait les mêmes végétaux dans ces différents continents, ils étaient soudés, ils étaient proches les uns des autres.
Et au niveau du vivant, de la faune ?
Alors, au niveau de la faune, on a un exemple, c'est pareil, hein, on peut retrouver à partir de la faune aussi des exemples de cette soudure entre les différents continents. L'exemple classique, disons, c'est ce petit fossile, un petit fossile qui est un reptile qu'on appelle le mésosaure, reptile aquatique que l'on retrouvait en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Si on regarde ce petit animal, on s'aperçoit que ce n'était pas un nageur extraordinaire. Alors, il n'a pas des pattes adaptées à la natation pour traverser l'océan Atlantique. Donc, on comprend bien qu'il vivait dans un environnement proche et que l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud étaient soudées.
À une époque, Claudine, on pensait que les continents dérivaient.
Oui.
Dérivaient comme des radeaux sur l'eau.
Oui, effectivement, Wegener est un personnage qui s'occupait de météo et qui avait constaté une sorte d'emboîtement de l'Afrique et de l'Amérique. Et il avait remarqué aussi cette histoire entre les végétaux communs en Amérique, en Afrique et l'animal aussi. Et il avait donc pensé que on pouvait voir à une époque donnée une réunion entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et donc, si à une époque ils étaient réunis, il a bien fallu que depuis ils se séparent. Et c'est la théorie qu'il a évoquée, qui est la théorie de la dérive des continents. Donc les continents, à une époque, étaient tous réunis en la Pangée, et ensuite ils se sont écartés progressivement pour donner l'aspect de la Terre actuelle. Après Wegener, donc c'était en 1912 qu'il a émis cette théorie, et pour qu'une théorie scientifique soit admise, il faut qu'il y ait un consensus entre plusieurs scientifiques, et ça n'a pas été le cas parce que son explication était difficile à imaginer, c'est-à-dire que pour lui, les continents se déplaçaient, glissaient sur le fond océanique de basalte. Et pour que ça puisse exister, il faut une force considérable, et cette force considérable, personne n'arrivait à la déterminer. Donc sa théorie est tombée un petit peu dans l'oubli. Mais une graine avait quand même germé dans la tête des scientifiques. Plus tard, vers les années 60, un autre scientifique, qui était océanographe et géologue, Harry Hess, avait constaté, parce qu'il faisait des études sur la gravité, que probablement les océans, le fond océanique naissait au niveau des dorsales et disparaissait au niveau des fosses. Et donc le fond océanique circulait un petit peu comme sur un tapis roulant. Cependant, ça paraît, sa théorie est tombée un petit peu dans l'oubli. Et dans les années 1960-65, un autre personnage qui s'appelait Xavier Le Pichon, qui était un physicien, a étudié donc les différentes théories, et pour lui, au point de vue physique, ça ne colle pas, ça ne pouvait pas marcher. Et donc il a en fait cassé la théorie de la dérive des continents et la théorie de Hess. Pour lui, ce n'était pas possible. Bien, et donc il a fait sa thèse là-dessus. Puis, quelques mois après, en ouvrant un journal scientifique, il a découvert une structure qui ressemblait, qui était le fond des océans, qui ressemblait un petit peu à une peau de zèbre, symétrique par rapport à la partie médiane, c'est-à-dire symétrique par rapport à la dorsale. Et quand il a vu ça, il a compris qu'en fait, S avait raison et que les océans se formaient forcément au niveau des dorsales. Et donc, ben, il s'est mis au travail avec d'autres scientifiques, et c'est eux qui ont émis la théorie de la tectonique des plaques. Voilà, donc la tectonique des plaques est différente de ce qu'on appelle la dérive des continents. Ce n'est pas les continents qui bougent, c'est un ensemble de plaques qui sont en mouvement donc à la surface du globe terrestre. Et ça montre bien que finalement, l'humilité, si un scientifique permet... avec de l'acharnement, d'admettre ses erreurs et de finalement pouvoir construire une théorie convenable et acceptée par tout le monde à l'heure actuelle.
Voilà ce que tu appelles l'humilité nécessaire en science.
Voilà, absolument. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, il faut un consensus pour qu'une théorie puisse être acceptée. Sinon, c'est des idées qui sont émues, qui ne sont pas forcément inutiles, parce qu'elles germent un petit peu dans l'esprit des gens, et ça fait sortir des théories après intéressantes.
Nous, on commence avec un petit cover qui nous vient des Rolling Stones. Et s'il y en a qui la connaissent, on vous demanderait de ne pas la chanter avec nous, parce qu'on a changé les paroles, OK?
Ça a gagné, tu sais.
Supercontinent du monde. Pangée, Pangée, des libellules grosses comme ta blonde. Avant l'Amérique du Nord, c'était collé sur le 14. Ça devait Pangée,
tu vas faire des bébés. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. C'est quoi donc le cinquième?
Je pense que c'est l'Australie.
T'étais pas loin, l'Océanie.
Comment?
Mais Pangée.
Pangée. Avant partout, c'était ici.
Voyage en Pangée avec Claudine Larger sur Dissonance.
Voilà, alors nous allons maintenant essayer de nous représenter ce qu'étaient les terrains, enfin, la vie dans les terrains de la partie terminale de l'ère primaire, qu'on appelle le Permien. Au début de cette ère primaire, on avait un environnement, en fait, de climat tropical humide. Dans ce climat tropical humide, on pouvait voir pousser des plantes qui ressemblent à nos prêles, enfin qui ressemblent, qui ont un peu le même aspect que les prêles actuelles, mais qui étaient à l'époque de véritables arbres. C'était des plantes qui poussaient dans des milieux marécageux. Dans cet environnement, il y avait aussi des rivières, des lacs, à proximité desquels se développaient des fougères arborescentes, enfin de grands arbres en fait à feuilles de fougères. Et dans ces environnements vivaient tout un tas d'animaux de type amphibien, c'est-à-dire des animaux qui ont besoin d'eau pour se reproduire. Alors parmi ces amphibiens, on peut trouver une très grosse trace ici, qui présente une main à quatre doigts, qui est une trace d'un amphibien de type, une sorte de salamandre énorme. Elle pouvait faire 1,50 m à 2 mètres, avec une énorme tête. Elle pataugeait donc dans les marécages et elle pouvait se nourrir de poissons. Ces poissons, on peut en retrouver la trace dans notre région, non pas sous forme de squelette, on ne trouve pas de squelette dans nos terrains. Par contre, on va trouver les traces formées par leurs nageoires lorsque ces poissons, finalement, se déplaçaient dans une eau peu profonde liée à la période de sécheresse. On peut trouver aussi des petits animaux qu'on appelle des microsaures, dont on trouve quelques traces, qui sont des animaux qui n'existent plus du tout à notre époque, qui sont entre l'amphibien, c'est-à-dire la salamandre, et le lézard. C'est des animaux intermédiaires qui ont des caractères de chacun d'entre eux, qui sont des tout petits animaux. On retrouve aussi des petits ronds là qui représentent en fait des méduses d'eau douce qui sont pas véritablement fréquentes, mais qui de temps en temps étaient extrêmement nombreuses. On devait avoir à une certaine période, au moment de la période des pluies, une explosion de ces méduses. Et quand le milieu s'asséchait lors de la période sèche, eh bien, ces méduses mouraient et venaient se déposer sur le fond où leurs traces ont été fossilisées. On retrouve aussi des empreintes d'un organisme intéressant au point de vue environnement, parce que c'est un des premiers végétariens de l'époque. C'était une sorte de vache de cette époque autunienne. Il avait une tête minuscule, un énorme ventre qui lui permettait de digérer tous ces végétaux assez coriaces de l'époque.
Et dans notre Rouget, vous en avez trouvé de ces traces-là ?
Alors, oui, ces traces, en fait, du Permien inférieur, c'est-à-dire du début à l'époque tropicale humide, on les trouve actuellement plutôt dans la vallée de la Sorgue.
D'accord.
Voilà, parce que c'est la région qui est la plus creusée par l'érosion actuelle, quoi, moderne. Et donc, c'est plutôt là qu'on va trouver les premiers, les plus anciens fossiles.
Et vous, vous passez du temps, excusez-moi Claudine, à chercher toutes ces traces ?
Ben oui, enfin, je ne suis pas la plus acharnée de tous mes collègues géologues, mais oui, ça m'arrive donc de temps en temps d'aller me balader alors dans les éboulis, le long des fossés, on peut trouver effectivement des fossiles.
Parce que ce musée, c'est un travail d'équipe. Il y a plusieurs résultats de recherche de tout un nombre de géologues.
Oui, absolument. C'est-à-dire, au début, quand j'ai pensé le faire, je voulais faire une exposition simplement montrant quelques éléments que j'avais, parce que je n'avais pas quand même en quantité. Et parce que souvent, les gens me demandaient quelle est l'origine de ces terres rouges. Alors, j'ai dit, tiens, ça serait intéressant de faire une petite exposition. Et puis, finalement, des amis géologues se sont joints. Dans la première vitrine où on trouve les traces de poissons et l'amphibien a été réalisée grâce à un don d'Alain et de Sylvie Michelin, qui ont participé donc, à l'illustration du musée. Il y a M. Suot, qui est responsable de la géologie au musée de Millau, qui m'a porté quelques échantillons, sachant que maintenant, on a tendance dans les musées à faire des choses beaucoup plus locales. Donc, Millau est plutôt orienté Causse, etc. Et donc, quelques échantillons qui lui restaient m'ont été apportés. On les trouvera dans la salle voisine. Il y a Guillaume Puech, qui est un passionné, alors là,
des traces de tritons.
Des traces. Alors, cette plaque-là, qui m'a été donc apportée par Guillaume, présente. Alors, on voit des petites traces à quatre doigts, qui sont des animaux un petit peu de la même famille que celui-là, mais de beaucoup plus petite taille, qui avaient des allures de salamandre. Et là, il y a une autre trace avec des doigts griffus, là. C'est la trace d'un petit prédateur qui venait peut-être. Consommer les petits amphibiens qui se trouvaient là avec ces petites traces à quatre doigts où on voit bien la partie arrondie. Et ils n'ont pas de griffes ceux-là, hein, c'est des petits amphibiens.
C'est fabuleux, vous nous faites voyager dans le temps.
Ah ben,
ça, c'était avant les dinosaures.
C'est bien avant les dinosaures, oui. On est à peu près donc, toujours à moins de 180 millions d'années. Les dinosaures, c'est... ce qu'on connaît, c'est au-delà de 200, à peu près, millions d'années. Voilà.
Il y a des grosses traces aussi. Hein.
Alors là, ce sont des traces d'un autre animal qui est très intéressant, parce que c'est probablement lui. C'est un des premiers végétariens qui existait, parce que ce qui est intéressant dans notre région, là, c'est que cette période-là, c'est le premier vrai écosystème qui s'est mis en place avec des vertébrés piscivores, herbivores, carnivores, etc. Alors qu'avant, les écosystèmes étaient plutôt basés sur les vers, les insectes. Là, on a un vrai écosystème qui commence à se mettre en place. C'était un animal, la vache en quelque sorte de l'époque. Il avait une tête minuscule, mais un ventre énorme pour arriver à digérer là, les différents végétaux qu'il trouvait. Alors, à cette époque-là, on trouve surtout, donc, ce qu'on a trouvé dans ce coin-là, c'est plutôt des fougères. Mais ce sont des fougères très particulières. Ce sont des fougères qu'on appelle à graines. Ce sont des fougères arborescentes. Comme on trouve en Nouvelle-Zélande maintenant,
très,
par
très
exemple.
Grande.
Très, très grande. Il y avait plusieurs tailles, bien sûr, mais c'est majoritairement ces fougères-là qu'on a trouvées. Il existait des petites fougères, mais bon, il n'y en a pas représentées.
Ces pierres, ce sont des clichés de l'époque, en fait. C'est un témoignage qu'on peut toucher du doigt.
Alors, c'est comme un cliché d'époque, mais ce n'est pas un instantané. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé tout dans la même couche. C'est-à-dire, c'est pas exactement de la même époque. Ça s'est passé sur quelques millions d'années quand même. Mais ce sont des végétaux et des animaux que l'on retrouve fréquemment dans ces lieux. Alors ici on retrouve un autre petit animal qui a des traces un petit peu bizarres là, de mer avec des doigts très longs, qui était un petit animal qui souvent marchait sur ses pattes arrière. C'est un de ses premiers bipèdes, en quelque sorte. Enfin, on pense qu'il était grimpeur aussi. On a trouvé dans la région de l'Odève un squelette qui permet de penser que c'était bien ce petit animal-là. On retrouve aussi, de temps en temps, ce qu'on appelle des traces de gouttes de pluie. Enfin, des gouttes, c'est pas ce qu'on appelle, ce sont des traces de gouttes de pluie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en milieu tropical humide, donc on a deux saisons, saison humide et saison sèche. Pendant la saison humide, on avait tous ces petits animaux qui faisaient toutes leurs traces. La dernière pluie pouvait s'imprégner sur les berges humides, par exemple. Puis après, lorsque la sécheresse s'installait, tout se figeait, tout devenait compact, solide, durci, parce que la sécheresse durait plusieurs mois. Ce qui fait que quand la pluie suivante arrivait, eh bien, les choses étaient suffisamment endurées pour être conservées.
Voilà 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutumes et us, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire, confirment que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte, ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux, j'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières, tous les dimanches matins je jouais au tiercé, je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant bien 3 millions d'années, vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées.
Voyage en Pangée avec Claudine Larger sur Dissonance.
On arrive ensuite toujours au moment en milieu tropical, mais là beaucoup plus sec. C'est-à-dire que le climat progressivement s'est asséché, probablement parce qu'on est remonté un peu en latitude. Alors là, on trouve plutôt des conifères.
On est vers quel...
Alors, 200, là, on est vers 270 millions d'années à peu près. On retrouve des traces de nos petits animaux, là, ou d'autres petits reptiles. Et enfin, on retrouve des traces très, très typiques d'animaux beaucoup plus gros, qu'on appelle des pélicosauriens. Et parmi eux, on a le dimétrodon. Le dimétrodon, c'est un animal qu'on voit souvent représenté, qui avait une voile sur le dos. Mais attention, ce n'est pas le dinosaure qui a la voile, c'est un autre animal plus primitif que lui, et qui, on le voit marcher avec les membres extrêmement écrasés, quoi. Il était très écrasé sur le sol, alors que le dinosaure qui a la voile a les membres beaucoup plus redressés, hein. Ils sont différents. C'était évidemment ce petit animal-là. Enfin, ce petit animal, il pouvait mesurer 3 mètres ou plus. C'était le prédateur privilégié de l'époque. On en voit une représentation, un moulage d'un squelette d'un jeune dimétrodon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le crâne, on voit qu'en arrière de l'orbite, il a une cavité qui est la même que celle que nous possédons, nous. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un crâne proche du crâne des mammifères actuels et de l'homme. Donc, il fait partie, non pas vraiment de la lignée, mais il fait partie de nos ancêtres assez lointains. Et c'est à partir de petits animaux de ce groupe que sont émergés les mammifères et finalement l'homme. Ouais. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Alors, il y a une plaque où l'on trouve des traces d'un autre type de pélicosaurien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi associé des traces de doigts arrondis. C'est-à-dire qu'on a en fait une trace d'un amphibien qui est recouverte par les traces de ce fameux prédateur. Alors, ils ne sont pas passés forcément en même temps. La patte du prédateur semble recouvrir celle de l'amphibien. Ou il le poursuivait, ou il l'attaquait à cet endroit-là. Enfin bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est un instant de vie.
Voilà, ça fait rêver. On peut imaginer.
Ouais. On peut imaginer aussi qu'il est passé bien avant et qu'il s'est échappé. Il n'a pas été mangé. Voilà, on peut trouver aussi des traces de nage de temps en temps. On voit des sortes de griffures qui montrent les traces de nage de tous ces animaux.
Et tout ça, ça a été trouvé dans la région.
Alors ça, si le premier c'était la sorgue, là c'est plus près de la région, c'est plutôt quand on va vers Saint-Cernin par là-bas. On passe à une période qu'on appelle le Saxonien. Alors le Saxonien, c'est vraiment toutes les roches que l'on voit quand on se met sur le point de vue de Montaigu. Toutes les roches qu'on voit, c'est du Saxonien. C'est rouge, mais c'est un rouge un petit peu différent du précédent. Alors la couleur rouge qu'on trouve dans l'Autunien est une couleur qui correspond à ce qu'on appelle des latérites, c'est-à-dire une altération en climat humide. Lorsque on est en présence de ce climat, à la fois humide pendant la période des pluies et puis sec ensuite, on a une altération particulière des roches des montagnes. On a ce qu'on appelle un lessivage, c'est-à-dire que la pluie va entraîner en profondeur le calcium, le magnésium, etc., et va laisser sur place de l'aluminium et surtout le fer. Et c'est ce fer qui se présente sous un aspect d'oxyde de fer qui va donner la couleur rouge, donc très marquée à la période précédente, quoi. Alors là, on est en milieu plus sec. On arrive donc vers les 250 millions d'années progressivement. Climat manifestement aussi avec deux saisons alternées. Une saison humide que l'on peut retrouver parce qu'on retrouve des traces d'ondulations classiques que l'on peut retrouver au fond de la mer, qui montre un mouvement des vagues qui a transformé le sédiment en ces vaguelettes. Ça, c'était pendant les périodes humides. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la Pangée, la France se trouvait en fait à l'est de cette Pangée, face à un immense océan qui s'appelle la Patalassa. C'est-à-dire que pendant la période humide, on avait des véritables moussons qui s'abattaient sur la région. Et donc, on avait de temps en temps des périodes très humides avec des sortes d'inondations. La plaine était inondée et on retrouve donc ces traces-là. Puis ensuite, évidemment, le milieu s'asséchait pendant la période sèche qui pouvait sans doute durer plusieurs mois et sans doute même peut-être de temps en temps plusieurs années. Et à ce moment-là, on retrouve ce que l'on connaît aussi de nos jours, ce qu'on appelle des fentes de dissécation. Donc l'argile est complètement craquelée et bien sûr on le retrouve de nos jours, mais de nos jours la pluie suivante l'efface, tandis que là ça s'est formé donc à la fin de la saison des pluies, au moment de la sécheresse. Cette sécheresse s'est installée suffisamment pour que tout soit enduré et qu'on le retrouve ensuite de nos jours. Alors on retrouve ici une plaque qui est en fait celle qui était au-dessus. On trouve des sortes de bourrelets qui étaient les traces des fentes. C'est l'argile et le sable qui s'étaient mis dans les fentes. Et puis on trouve aussi, surtout, le moulage de gouttes de pluie. On retrouve, comme tout à l'heure, des gouttes de pluie. Ce qui est assez fréquent dans la première période et qui est beaucoup plus rare dans le Saxonien. Dans ce Saxonien, il y avait bien sûr au moment de la période humide l'apparition de mares temporaires. Dans cette mare temporaire vivait tout un tas d'organismes dont on peut voir les photos. C'était des crustacés. Alors il y en avait certains qu'on appelle les conchos strassés, qui étaient une sorte de crevettes avec des valves. Et puis, il y avait aussi le triops, qui était aussi une sorte de crevette, pour simplifier, avec une carapace, un peu comme une tortue, et qu'on retrouve fréquemment. Alors, on le voit ici en fossile, et on le voit. Alors, on voit des traces en forme de cœur, de temps en temps, qui est donc son moulage. Ces organismes, donc, vivaient dans ces mares, et puis au moment où, évidemment, de l'assèchement de la mare, ils mouraient. Mais les œufs qu'ils avaient pondus pouvaient donc réapparaître. Ces animaux-là, les conchos strassés et les triops, vivent toujours. Enfin, leurs descendants vivent toujours de nos jours. On en retrouve donc dans les zones du même style
tropical.
Même les conchos strassés, on en trouve en milieu plus froid. Alors à cette époque-là, les précédents animaux qu'on avait vus, qui marchaient les pattes repliées, ont disparu. Et on va retrouver des animaux beaucoup plus agiles, avec les pattes beaucoup plus redressées, donc beaucoup plus capables de jouer leur rôle de prédateur, qu'on appelait les thérapsidés. Alors, ces thérapsidés, ce sont des descendants des pélicosauriens qu'on a vus. Un groupe de pélicosauriens s'est transformé en ces animaux-là. Alors, ils ont des dents différenciées, c'est ce qui les caractérise, et qui se rapprochent encore plus de nous. Hein. Ils n'avaient pas des écailles, hein. Ils avaient une peau épaisse, qui recouvraient leur corps, et c'était donc les prédateurs de l'époque. On peut en trouver plusieurs sortes. On peut voir la main de l'un d'entre eux ici, et le pied d'un autre qui ressemble un petit peu, qui est difficile à identifier quand on n'a pas l'habitude, mais qui ressemble à un pied humain.
Et justement, quand on n'a pas l'habitude, vous avez l'habitude, ça s'est forgé comment cette habitude, à force de courir les chemins et les...
Ben, c'est à force. Bon, c'est aussi par les lectures, à force de lire des articles scientifiques ou autres, où on voyait des reproductions, ben, quand on voit une forme un peu bizarre, on est attentif et finalement, on peut donc...
Et c'est une passion, Claudine, qui remonte à l'enfance. Vous étiez de ces enfants qui couraient les chemins pour chercher des fossiles?
Je ne cherchais pas des fossiles. J'étais plutôt... J'étais à la recherche d'insectes et tout ça, mais je me suis toujours passionnée par ce genre de choses. Non, je n'étais pas dans des régions où il y avait des fossiles. D'ailleurs, quand je suis arrivée ici, j'avais toujours en tête des études que j'avais faites à la faculté, où on disait que le saxonien, donc cette période-là, était abiotique. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun fossile, on ne trouvait rien.
C'est ce que j'avais souvent entendu dire.
Voilà. Moi. Et en fait, il y en a plein, et il y en a d'autres d'ailleurs. Bon, on doit faire une autre vitrine là. En réalité, il y avait plein de petits animaux qui vivaient, aussi bien des invertébrés que des vertébrés. Donc, disons que le premier trou, je me promenais classiquement dans les rougiers, puisque j'habite dans le coin, et le premier que j'ai trouvé, c'est un triops, justement.
Ah, voilà.
Et je croyais qu'il n'y avait pas d'animaux, puisqu'on m'avait raconté que c'était abiotique. Et en plus de ça, je ne savais même pas que les triops pouvaient se fossiliser, quoi. Et donc, ça a été une surprise extraordinaire. Je crois que c'est de là qu'est partie vraiment ma recherche.
Hi, I'm Donald Trump. Et j'aimerais savoir comment faire pour devenir un beau fossile après ma mort. Thank you, fuck off.
Mais quelle idée de se faire fossiliser!
Mais si, c'est une manière de devenir immortel! Seulement, c'est pas de la tarte. Avant toute chose, il faut mourir.
Fuck off!
Ah oui, c'est mieux. Deuxièmement, il faut choisir un bon sol sur lequel mourir. Un truc bien meuble qui va mouler parfaitement votre cadavre. Voilà!
Comme ça?
Super! Là, votre corps va pouvoir se décomposer à l'abri de l'oxygène. Votre squelette et les parties molles vont être remplacées par des minéraux. Après, il faut que quelqu'un trouve votre corps fossilisé sur les 150 millions de kilomètres carrés que compte la Terre, mais bon... Arrangez-vous pour être découvert après le 19e siècle, à une époque qui comprend le concept de fossile. En 1747, aux USA, quand on trouva un superbe fossile, on crut à un bobard. Les Américains ratèrent donc une première occasion de découvrir, avant tout le monde, les fossiles. La La seconde fois fut dans le Kentucky, quand des gars trouvèrent des ossements de mammouth. Comme ils ne savaient pas ce que c'était, alors ils l'appelèrent le grand incognitum et assemblèrent ses os un peu n'importe comment. C'est un jeune anatomiste français, Georges Cuvier, qui assembla correctement le squelette et le baptisa.
Mastodonte.
En plus de cet affront, le président Jefferson dut faire face à une terrible révélation.
Oh Seigneur, pourquoi détruisez-vous les êtres que vous avez créés ?
Il n'y a pas eu qu'une seule extinction, mais plusieurs. Et oui, mon cher Donald, les extinctions sont valables aussi pour les humains. Même si vous devenez un beau fossile, rien ne dit que vous serez découvert un jour. Et encore moins par un humain.
Voyage en Pangée avec Claudine Larger sur Dissonance.
Alors, nous passons donc de la période du Permien inférieur et supérieur.
Donc c'est 280 000 et 250 000.
Voilà, de 280 000 à moins de 150 000. Donc ces deux périodes qui forment ce qu'on appelle le Permien.
Je dis 1000, mais c'est des millions d'années.
Des millions d'années,
280
oui.
280 millions, mais 250. Oh là là, mais j'ai du mal à imaginer.
Et donc, pour imaginer, les Alpes, par exemple, c'est 60 millions d'années. Donc, on est vraiment bien avant. Voilà. Et à cette époque, il y avait quand même les montagnes, c'était le massif central qui s'était formé. C'est à partir de ce massif central qu'on a eu finalement tous ces sédiments qui ont permis la vie de tous ces animaux et tous ces végétaux. Alors, à la fin de cette période, une transformation profonde s'est passée, probablement liée à des éruptions volcaniques considérables qui se sont passées, donc ce qu'on appelle les trappes de Sibérie, et qui ont envoyé dans l'atmosphère des masses considérables de CO2, d'autres gaz, qui ont créé un effet de serre très important qui a fait augmenter la température. Alors, les scientifiques estiment 16 plus ou moins 10. C'est-à-dire, bon, il y a toujours des larges, mais bon, il y a une évolution considérable de la température qui a entraîné un assèchement assez global, finalement, de la Pangée. Et tous les animaux qu'on a vus dans la salle, finalement, pratiquement, ont disparu. Il y a eu quelques survivants, probablement des plus petits, qui ont réussi à trouver des zones refuge.
Comme le
Triops, les ancêtres des autres, parce que s'il y a d'autres animaux ensuite, c'est que leurs ancêtres étaient quand même restés. Alors ces zones refuges, on pense qu'il y a eu des zones montagneuses un peu plus, qui ont pu conserver un peu d'humidité. Enfin bon, on ne sait pas trop, mais on a trouvé quand même des régions où on trouve, à la fin du Permien et avant l'époque suivante du Triaste, au niveau de la Charnière, on a trouvé des zones où il y a de la vie et où on retrouve des anciens et des nouveaux animaux. Donc, il y a eu, quelque part dans le globe, des zones de refuge.
Ah, mais ça, c'est bien, ça fait espérer voilà. Pour notre époque actuelle aussi.
Voilà. Alors, je disais que la vie avait disparu, mais en réalité, eh bien, les petits animaux survivants se sont transformés, ont donné naissance à une vie extrêmement importante, alors qu'on est encore en période sèche. Cette sécheresse, elle était globale, c'est-à-dire qu'on n'a plus de zonation climatique au début de cette période qu'on appelle le Trias. Les calottes glaciaires ont fondu, et donc on a un réchauffement global. Mais malgré tout, certains animaux sont parvenus à se transformer et à devenir donc des espèces extrêmement variées qui ressemblaient à des sortes de crocodiles, en fait, aux surpattes. Hein, ce n'était pas les crocodiles que l'on connaît actuellement, mais la tête, c'était quand même une allure de crocodile. Alors, c'était des animaux qui pouvaient être de 4 mètres, voire plus. Il y en avait bien sûr des petits, il y a des petits lézards. Et donc, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve des traces qui correspondent à des petits lézards, ici et là. On retrouve donc ces traces de crocodiles à eau sur pattes, avec différentes espèces. Hein, c'était assez varié. Ils avaient la trace ressemble un peu à une main humaine quand on la regarde de près. Et il vivait donc dans un environnement à saisons alternées aussi, parce qu'on retrouve des traces de sécheresse. Alors là, les traces que l'on retrouve, ce n'est pas des ondulations classiques, on voit qu'elles sont dissymétriques. Ça montre qu'il y avait un courant, alors c'était certainement un oued qui circulait et qui de temps en temps s'asséchait et dont on a retrouvé la trace fossile. On retrouve aussi les craquelures de dissécation qui montrent bien aussi cette alternance de saisons, à la fois pour certaines humides et beaucoup sèches, mais dans un environnement beaucoup plus chaud, certainement.
Donc la vie biologique, c'est toujours adapté aux conditions climatiques.
Absolument, oui. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la chance que certains animaux survivent, comme on l'a dit. Et parmi ces animaux, eh bien, ils se sont adaptés aux nouvelles conditions avec un environnement assez difficile, disons, à cette époque-là. Et pourtant, ils ont réussi à donner des espèces variées, dont certaines sont de très grande taille.
Dans le public qui vient ici, il y a des adultes, mais aussi des enfants. Ils doivent être curieux parce que ça leur donne une image de la vie.
C'est variable. Disons que il y a des adultes qui sont intéressés, puis il y en a pour d'autres, c'est des cailloux. c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que quand on fait visiter, ça paraît différent. Les gens le vivent différemment, c'est évident.
Nous étions à 230 millions d'années.
Alors, à la fin de cette période-là, nous sommes à les périodes donc, de vie de nos crocodiles sur pattes, on est à 230 millions d'années.
Et toujours pas de dinosaures, parce que souvent les enfants vous disent, mais d'abord c'était les volcans, puis après il y a eu les dinosaures,
oui.
Et puis après
alors,
il y a eu les gens.
Ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que si on regarde cet échantillon-là, on aperçoit des traces classiques de nos fameux crocodiles, et si on regarde bien, entre les pattes de ce crocodile, on voit une trace à trois doigts. Alors, ce n'était pas un vrai dinosaure, mais c'est ce qu'on appelle des dinosauriens, c'est-à-dire qu'ils commençaient à apparaître. Mais c'était des animaux de toute petite taille. On a l'habitude d'imaginer les dinosaures comme des organismes très, très grands. En réalité, il y en avait les premiers dinosauriens, ceux qui ressemblaient, étaient de petite taille et devaient faire 40-50 cm à peu près. Alors là, le climat s'assèche encore plus, où il y a une période du moins où ça s'est encore plus asséché. Et la région autour de Montaigu a été occupée par ce qu'on appelle un lac salé. Pendant la période sèche, l'ensemble du lac s'évaporait et les minéraux qui se trouvaient dans cette eau se combinaient pour former des cristaux. Et en particulier des cristaux de sel. Alors les cristaux de sel, ils sont représentés par des cubes, ils sont un peu cubiques, et on peut retrouver ces traces cubiques sur certains, ou au moins les angles de ces cristaux. Donc ils se formaient pendant la période sèche, puis ensuite la période humide arrivait, l'eau bien entendu allait dissoudre le sel. Par contre, l'eau arrivant des montagnes transportait du sable, de l'argile, qui se mettait dans finalement la trace qu'avait laissée le sel en fondant. Et on retrouve donc ce qu'on appelle des fantômes de cristaux. Ce n'est pas les véritables cristaux de sel, mais c'est la trace fossilisée de ces cristaux. Et on trouvait aussi du gypse. Alors là, c'est vraiment le cristal de gypse qui a été conservé.
Voyage en Pangée avec Claudine Larger sur Dissonance.
Alors, on passe maintenant à une époque beaucoup plus récente et on commence à voir apparaître nos fameux dinosaures. Alors, ces dinosaures sont apparus en fait à une période un peu plus humide et à une période, ils sont arrivés ici à une période où la Pangée, dont on parlait tout à l'heure, se craquelle. Et donc, le fameux océan qui se trouvait à proximité s'enfonce un peu dans les terres et on se retrouve en fait la région sous forme de marée maritime. Donc, ce qui diffère du reste, puisqu'on était en milieu purement continental. Là, c'est des marées maritimes et c'est là que les dinosaures se promenaient. Alors, les traces qui sont dans la vitrine ne sont pas régionales, mais on a trouvé ces dinosaures dans la région. Donc, si on ne les a pas trouvés ici, ils devaient quand même passer de temps en temps. Et parmi eux, un des primitifs de grande taille qui avait des pattes encore assez longues, qu'on appelle les Herrerasaurus, et puis ensuite des traces qu'on appelle Gralactor, qui sont des organismes beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, des petits dinosaures qui vivaient certainement en troupe, et que l'on retrouve donc à la fin du Trias, et que l'on retrouve aussi dans la période postérieure, qu'on appelle le Jurassique.
On est autour de 200 millions d'années.
Alors on arrive vers 200 millions d'années à peu près, à cette époque. Non, c'est la fin de l'histoire de notre région. Ces dinosaures se promenaient sur la partie haute du plateau, sur la Loubière en fait. Et ensuite, eh bien, on n'a pas de sédiments postérieurs. Donc il faut aller vers Millau pour voir des sédiments postérieurs qui étaient la plupart du temps marins. Et d'ailleurs, si on veut connaître la suite de l'histoire de notre région, eh bien, il faut aller au musée de Millau, où on voit effectivement les fossiles marins qui se trouvaient qui vivaient dans notre région.
Dans le panneau, vous avez mis une question pour le public. Qu'est-ce qui est apparu le premier, le dinosaure ou l'œuf de dinosaure?
Alors, effectivement, on peut se demander. Bon, c'est la question classique de la poule et de l'œuf. Et il faut que je donne la réponse.
Je ne sais pas. Voilà. Invitez les gens à venir la découvrir.
S'ils veulent savoir la réponse probable, bien, il faut qu'ils viennent au musée pour la découvrir.
Très bien, ouais. Donc Claudine, ce voyage dans la Pangée commence il y a 280 millions d'années et s'arrête quand arrivent les dinosaures.
Il s'arrête, oui, pratiquement. Il s'arrête au moment où la Pangée se détruit, où notre région devient marine progressivement et au moment où les dinosaures apparaissent. C'est-à-dire qu'on est vraiment avant les dinosaures et ils apparaissent juste à la fin de cette période.
Moi, ça a presque une dimension philosophique, ce musée, pour moi, et puis pour d'autres gens avec qui j'en ai discuté. Dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire de la Terre et des roches, il y a eu des cassures, il y a eu des périodes froides, chaudes, il y a eu des disparitions d'espèces.
Oui, sauf que l'évolution dont on parle, c'était des évolutions lentes. Ce qui permettait une plus facile adaptation des espèces, hein, puisqu'il y en a certaines qui ont pu résister dans les fameuses zones refuges et ensuite se développer. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ça va beaucoup plus vite. C'est en dizaines d'années, alors qu'avant, c'était en milliers d'années, l'évolution climatique. Les changements pour les espèces sont beaucoup plus compliqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des espèces qui vont résister, qui vont se développer et qui vont prendre les biotopes laissés libres par d'autres. Mais c'est beaucoup plus complexe, quoi. C'est plus brutal que ce que l'on évoque certainement. Bien qu'il y a eu des époques quand même où ça a été dur certainement pour les animaux.
Mais ça, moi, ça me conforte dans l'idée que l'espèce humaine, un jour, elle est amenée à disparaître, comme d'autres espèces. Ça fait partie de l'évolution.
Probablement, oui. Si on se met dans ce caractère, dans cette option, oui. L'espèce humaine, comme les autres espèces, comme les dinosaures. Encore que, bon, il y a eu des catastrophes qui ont entraîné la disparition des unes et qui ont permis l'essor des autres. Et bon, seulement, bon, les êtres humains, quand même, c'est un peu plus difficile à avaler la pilule.
Donc, pour en venir au musée de la Pangée, il existe depuis quand, Claudine ?
Ça fait 2 ans, je crois, qu'il a été ouvert, juste avant l'épidémie du Covid.
Donc oui, il est amené à... Il y a des heures d'ouverture ?
Ben, pour l'instant, il est ouvert aux mêmes heures que le château, d'accord. C'est-à-dire à 10h à 19h.
Et donc il y a un petit livret qu'il faut aller récupérer à l'accueil du château ?
Non, il est là.
Mais donc on donne rendez-vous aux auditeurs au musée de la Pangée, de 10h à 19h, jusqu'aux journées du patrimoine.
Jusqu'aux journées du patrimoine, oui, je pense.
Voilà. Merci beaucoup, Claudine Larger.
Merci.
Cette émission est à réécouter sur les ondes de Radio Sainte-Afrique, ainsi que sur le site dissonance.ovh, où elle peut être téléchargée afin de l'écouter quand et où cela vous dit.
Salut.
Et fraternité.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. Breaking the law.